Le masque et la plume. L'actualité de la scène est au sommaire du masque aujourd'hui avec la comédie musicale Chicago, avec les femmes savantes jouées par la troupe de la Comédie française sous la direction de l'italienne Emma Dante. Figure aussi le seul en scène d'Alex Lutz intitulé « Sex, Grog et Rocking Chair ». Les nouvelles créations de Wajdi Mouawad et de Joël Pomera qui chacun de leur côté livrent leur vision de la jeunesse et la dernière pièce de Jean-Philippe Daguerre, La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, c'est le titre, avec pour héroïne une pirate de l'air. Pour en débattre, quatre critiques, Sandrine Blanchard du journal Le Monde, Anna Sigalevitch de France Culture et France Inter, Pierre Lesquelaine de I.O. Gazette et Détective Sauvage, et Fabienne Pascot de Télérama. Bonjour, bienvenue, voici Le Masque. Depuis Prague, Laurent Barrès a une requête. Serait-il possible qu'une émission se passe sans citer Jacques Demy ? Je n'en peux plus. Depuis Boulogne, Rémi fait la demande. J'entends les sifflements. Mais depuis Boulogne, Rémi fait la demande inverse. Ai-je le droit de revenir sur les demoiselles de Rochefort que vous avez évoquées il y a quelques semaines ? Certes, avec ce spectacle musical, on perd beaucoup en finesse et en élégance par rapport au film de Jacques Demy et Michel Legrand, mais ça reste un émerveillement, si bien que je suis sortie du spectacle avec l'envie d'aimer la vie, d'aimer les fleurs, d'aimer les rires et les pleurs, etc. Concernant ce spectacle qui se joue jusqu'au 14 juin au Lido à Paris, Camille tient à préciser que les beaux décors qui glissent, tournent ou surgissent des dessous de la scène sont signés Bruno de Lavener, qui fut l'un des scénographes des Jeux Olympiques de Paris. Tandis que Lan Trividic et Jimmy Le Can et d'autres se réjouissent de l'arrivée d'Anna Sigalevitch à la tribune, vous continuez à témoigner de votre histoire avec le masque. J'ai 63 ans, écrit Martial Gramont. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans le Connecticut. Et si certains expatriés disent leur manque de fromage ou de croissant, pour moi, ce fut le masque et la plume quand les podcasts n'existaient pas. Enfin, Alexandre Jolivet de Courbevoie anticipe notre programme du jour en témoignant de son enthousiasme pour le nouveau conte fantastique de Joël Pomera, intitulé « Les petites filles modernes, titre provisoire », du théâtre contemporain comme on en voit rarement, sensibilité, intelligence, puissance esthétique qui ici dit tout des tourments de la préadolescence. Quel sera le point de vue de la tribune pour ce spectacle ? Vous le saurez en écoutant ce qui suit. Mais on ne va pas parler tout de suite de la nouvelle création de Joël Pomera, puisqu'on commence ce masque avec une comédie musicale, à savoir Chicago, créée à Broadway en 1975 par Bob Fosse, John Kander et Fred Ebb, adaptée ensuite au cinéma avec Catherine Zeta-Jones et jouée dans une version française au Casino de Paris jusqu'en avril. Mesdames, messieurs, vous allez assister à une histoire de meurtre, de cupidité, de corruption, de violence, d'adultère et de trahison. Toutes ces choses qui sont si chères à notre cœur. Ce sont les premiers mots du spectacle pour vous souhaiter la bienvenue dans le Chicago des années 20. Dans une alternance de scènes de groupe et de solo, on suit la rivalité entre Roxy et Velma, deux artistes de cabaret accusés de meurtre, et pour cause, deux détenus qui ont recours au service d'un avocat véreux sur fond de justice spectacle et de presse à scandale. L'orchestre, dirigé par Dominique Trottin, est à vue. Il est même installé sur des gradins, au centre de la scène. Les chanteuses, danseuses, danseurs, comédiens jouent devant l'orchestre ou perchés sur des échelles de chaque côté du plateau. La mise en scène est de Véronique Bandelier et les chorégraphies d'Anne Reinking. Les rôles principaux de Roxy et Velma sont tenus par Vanessa Cayol et Lisa Lanteri, qui remplacent Scheim depuis mi-décembre, à la grande déception de Pierre. Billy Flynn, l'avocat sans scrupules, est joué, chanté et dansé par Jacques Presse. Cela dit, Lisa Lanteri, qui remplace Scheim, est vraiment très très bien, je trouve. Mais c'est à toi, Pierre.
Ah, bah oui, d'ailleurs, on voit des fans de Scheim qui ont apporté le t-shirt et qui ne sont pas au courant et qui pleurent à l'entracte. Et ça, c'est vraiment le plus bouleversant du spectacle. En même temps...
C'est ce que tu as trouvé du plus bouleversant du
spectacle. Scheim nous avait prévenu, elle chantait dans son célèbre tube et alors qu'elle n'aimait pas les protocoles et les copier-coller. Et là, il y en a des protocole dans ce spectacle qui est extrêmement millimétré, d'une très grande inventivité chorégraphique. Non, moi, c'est la meilleure comédie musicale que j'ai vue depuis quelques temps. Je pourrais prendre le critère de la virtuosité, parce que tout est de très haut niveau dans ce spectacle. Rien n'est très kitsch, pour une fois. Mais c'est surtout le geste en lui-même qui m'a plu, parce que c'est la première fois que j'ai eu l'impression de voir le médium de la comédie musicale qui était vraiment spécifique et au centre du spectacle. C'est-à-dire que là, on n'a pas une musique et une danse pour, comme prétexte pour nous raconter une histoire. C'est-à-dire que l'histoire, la fable, que ce soit la prison, les procès, elle ne soude pas vraiment le spectacle. Ce qui est au centre du spectacle, c'est la possibilité même de danser, de chanter, de faire du musical, des numéros. Et c'est ce rêve de Roxy et Velma qui s'accomplit sous nos yeux. Et c'est ça que je trouve le plus bouleversant, pour le coup.
Fabienne, as-tu été bouleversée?
Pas du tout.
Ah non,
moi
non.
Ouh là là. Moi, je me suis ennuyée comme un rat. J'ai trouvé ça poussiéreux. J'avais eu la bêtise peut-être d'aller voir la mise en scène à Mogador de 2018. Alors là, c'est un copier-coller, c'est la même chose. Je pouvais peut-être faire l'effort de travailler différemment, de faire d'autres
décors. Mais qu'est-ce qui t'a gêné visuellement, par exemple ?
Bah, ils sont à l'étroit.
Ils sont à l'étroit, ça respire pas. Cette histoire, elle est un petit peu convenue. Alors, elle est sulfureuse, donc elle est agréable.
Elle est plus très sulfureuse non plus.
Mais... Oui, elle lorgne. Alors, les chorégraphies de Bob Fosse, les gants, le chapeau melon.
Je précise que Fabienne fait les gestes.
Le côté déhanché, un peu sensuel, ça marche parfaitement, c'est bien. Mais on a déjà vu ça 100 fois. Il n'y a même pas de réflexion, il n'y a même pas de retour. Ces femmes, en fait, elles sont pas très politiquement correctes à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'elles ont assassiné en se faisant passer pour des femmes harcelées. Elles ont menti, donc. Oui. Elles n'ont pas été harcelées comme elles l'ont dit. Ça pourrait avoir d'étranges résonances dans la société de 2025.
Oui, ça fait un peu penser au film de Ozon, Mon crime, qui était un peu problématique à cet endroit.
Donc, moi, j'ai trouvé que c'était pas... le français n'apporte rien. Moi, j'aurais préféré entendre la comédie musicale en anglais, sous-titrée. Ça aurait eu plus de rythme, plus de punch. Enfin, moi, vraiment, alors là, je vais faire beaucoup de peine à l'auditeur, mais je conseillerais plutôt de retourner voir Les Demoiselles de Rochefort
ou La Cage aux Folles.
Pas Le Roi Soleil, en tout cas.
Voilà, on a un petit panorama de comédie musicale.
Le fantôme de l'opéra.
Anna.
Moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment, Fabienne, parce que, en effet, on a déjà vu cette comédie musicale, il y a même
y a
des films
ans.
Qui ont été faits,
ça,
etc. Oui, mais alors moi, je l'ai vu comme un beau classique, comme on va voir Don Quichotte ou Le Lac des Cygnes. On connaît l'histoire, on connaît la chorégraphie, mais quand c'est bien fait, ça marche. Et je trouve qu'il y a quelque chose de complètement intemporel dans cette histoire, que c'est, en effet, remarquablement réglé, que moi, c'est, je crois, la première fois que je me dis en France, ah, c'est bien, pour des Français, vraiment, oh. Où là, pour moi, vraiment, cette troupe n'a rien à envier aux meilleurs shows et aux meilleures troupes anglo-saxonnes, ce qui est quand même très rare, parce que le niveau est excellent et en danse.
Un petit peu d'invention, quand même, c'est très stéréotypé, on a l'impression qu'ils reproduisent un modèle vieux.
C'est très cadré.
Ans, ça bouge pas.
Oui, mais du coup, c'est tellement
mais
cadré
c'est
qu'on n'est pas
cadré.
Emporté.
Exactement.
Et ben voilà, c'est tellement cadré complètement... qu'on n'est pas emporté.
Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai été complètement emportée, j'ai pris un plaisir fou. Je trouve que presque tous les interprètes, et notamment les deux héroïnes, sont absolument formidables parce qu'elles sont canailles en réussissant à ne jamais être vulgaire, elle danse extrêmement bien. Petit regret, la scène du Casino de Paris, on
elles
ne voit pas
scolaires.
Les pieds.
Elles sont bien, mais elles sont un peu scolaires.
Mais non, elles font très bien le job.
Lisa Lanteri, elle reprend très bien le flambeau.
Mais enfin, oui, on a absolument. Pas vu, et Vanessa Cayol,
vraiment,
elle est remarquable.
Formidable.
Franchement, de danser, de jouer et de chanter comme ça, c'est quand même très rare et que c'est pas daté parce que c'est intemporel.
Sandrine.
Alors moi, je n'avais pas vu la version de 2018 qu'a vu Fabienne. C'était mon premier Chicago sur scène. Vraiment, je pense qu'ils sont vraiment trop à l'étroit sur cette scène du Casino de Paris. C'est-à-dire que le gradin avec les musiciens vraiment occupe toute la place. Et je trouve, alors que là, il y a vraiment un tour de force de danser autour de ce gradin. Effectivement, c'est carré, c'est très bien fait. Il y a une très belle énergie. Les deux comédiennes principales, je trouve que Lisa Lanteri, elle a un côté Barbara. Et je l'ai trouvée très, très attachante, cette femme. Mais voilà, moi, je ne suis pas emportée. Je regarde ça, mais... Ce que j'aime dans les comédies musicales, c'est en prendre plein les yeux, c'est sortir un peu le sourire aux lèvres. Et là, c'est tellement bien cadré qu'il manque un petit éclat, quelque chose qui nous emporte.
Shine avait raison.
Chicago se joue au Casino de Paris jusqu'au 26 avril. On continue avec Les Petites Filles Modernes, titre provisoire de Joëlle Pommerat. Ces petites filles sont collégiennes, elles se prénomment Marjorie et Jade, et entre elles, ça commence mal. Marjorie harcèle Jade. Chez elle, elle est battue. Jade, quant à elle, est l'enfant unique d'un foyer où l'on s'inquiète de l'heure à laquelle elle s'endort. Mais ses parents n'en sont pas moins flippants. On entend leur voix, sans jamais les voir. Un soir, Marjorie entre dans la chambre de Jade et elle reviendra. Elles vont devenir amies pour toujours. Parallèlement à la chambre de Jade, on est avec un autre duo, deux créatures expulsées de leur monde parce que coupables de s'aimer. Après Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio et Contes et Légendes, Joël Pommerat met en scène un conte fantastique dont il est l'auteur, avec un dispositif sonore et des vidéos qui brouillent littéralement la frontière entre le réel et l'imaginaire. Fabienne.
Ah, c'est une expérience tout à la fois métaphysique, sonore, visuelle, exceptionnelle. On est plongé dans un monde quantique où le passé et le présent se mêlent, la mémoire, le vrai, le faux, où il y a des réincarnations de personnages, où les identités se confondent. Et Joël Pommerat nous fait faire ce voyage au cœur de l'absolu de l'adolescence. Ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on ne comprend pas tout, parce que c'est un jeu de pistes effroyable à la Alice au pays des merveilles, qui est un rêve où il y a des suicides, où il y a de la mort, où il y a des renaissances, où il y a des réincarnations,
où il y a du désir,
où il y a exactement du désir, de l'amour. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il arrive, tout en nous entraînant dans un univers fantasmagorique, à évoquer tous les problèmes des adolescents d'aujourd'hui, les problèmes de la socialisation difficile, du harcèlement, de la solitude, du manque de désir, des questions d'identité, de genre. Et donc, il arrive à brasser le politique dans un univers onirique. Pour moi, c'est son plus beau spectacle. Et pour une fois qu'avec la vidéo, il arrive à faire de la sculpture. C'est la première fois de ma vie où je vois un spectacle fait avec du numérique, avec de la réalité augmentée, qui soit aussi beau visuellement et qui nous fasse dériver comme si on était drogué.
Oui, Sandrine. Moi, je me disais, mais comment ils font? Comment ils ont fait? Il y a vraiment, ça relève de la magie parfois, ce qu'on nous donne à voir. Moi, je trouve que le grand mérite de ce spectacle, c'est de s'adresser à la jeunesse et de parler à la jeunesse. Je connais des jeunes qui sont allés le voir, parmi lesquels il y en a un qui m'a dit, moi, ça m'a fait pleurer. Alors après, si je voulais mettre un bémol au-delà de, effectivement, visuellement, ce qu'on nous donne à voir est exceptionnel. Mais après, dans le déroulé de l'histoire, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est tout le temps sur le même rythme. Et l'autre chose qui m'a gênée, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la limite d'être excédée par les voix. Les voix sont très, très particulières.
Elles sont envoûtantes aussi.
Elles sont envoûtantes. On se demande si elles n'ont pas été un peu trafiquées. Enfin, ces deux comédiennes, elles sont incroyables parce qu'elles jouent des adolescentes, on y croit parfaitement, alors qu'elles n'ont pas l'âge de l'adolescence. Et donc, il y a ces voix. Moi, à un moment donné, j'étais un peu saturée par ces voix et par aussi ce rythme qui se répétait.
Charme,
et en fait, ce qui est assez incroyable, ce spectacle, c'est qu'à la fois, il est dingue visuellement et en même temps, comme il y a vraiment, tout nous est dit, il y a un narratif littéraire incroyable, qu'on pourrait fermer les yeux et tout comprendre aussi de l'histoire. Et ça, c'est assez fascinant. Mais moi qui suis fan de Pommerat, je ne dirais pas que c'est son meilleur spectacle.
Pierre.
Il n'y a pas que des ados qui pleurent, moi aussi j'ai pleuré.
J'aurais voulu voir ça alors.
Ce spectacle... Ce spectacle me traverse depuis que je l'ai vu début janvier. Je ne suis pas féru de tous les spectacles de Pommerat, mais là, je suis admiratif du fait qu'un artiste aussi aguerri, aussi populaire que lui, prenne autant de risques, en fait, du risque visuel. Fabienne, tu l'as très bien dit, ce conte quantique, il est vraiment très envoûtant. Et puis, un risque dramaturgique aussi, écrire un conte pour ados sans paternalisme, où l'histoire, elle est flottante, mais elle est très cohérente aussi dans sa métaphore. Parce que moi, ce qui est très beau, c'est qu'elles ont beau inventer quelque chose de complètement fantasmagorique. En fait, au bout du compte, ce qu'elles apprennent, c'est que le temps va passer et que leur dernier câlin, en fait, c'est un câlin qui n'est peut-être pas pour la vie. Voilà.
L'amour et l'amitié est essentiel.
Alors, spectacle pour jeunes, mais spectacle pour adultes aussi, quand même. Anna.
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai été aussi très impressionnée formellement. C'est tellement sophistiqué formellement et ça va tellement loin dans la recherche formelle qu'on arrive à un moment où la forme devient le fond. Parce qu'il y a une telle réflexion sur comment on place un acteur sur un plateau, comment on sculpte les corps, comment on travaille sa voix, comment on travaille le noir, que c'est de la recherche, c'est un vrai laboratoire. Et en ce sens, c'est un auteur comme l'était dans les années 70 Bob Wilson, parce qu'il invente une esthétique qui devient vraiment d'une grande profondeur. Après, ce spectacle, moi, ne m'a pas profondément touchée, parce que j'ai trouvé cette forme aussi fascinante et aussi magique soit-elle, un petit peu rigide et un petit peu repliée sur elle-même. Et malgré tout ce que je comprends de la profondeur du projet, de ce qui se dit d'extrêmement juste dans les rapports absolus, extrêmes, entre une amitié adolescente, de la barrière infranchissable entre le monde de l'enfance et le monde des adultes qu'il met remarquablement en scène, je vois
la relation avec les parents.
Et pour autant, la relation avec les parents est merveilleuse.
Très, très bien
et
fait.
Pour autant, je dois être honnête, dans ma chair, je n'ai pas été touchée.
Les Petites Filles Modernes, titre provisoire de Joël Pommerat, se jouera à Châtenay-Malabry du 11 au 15 février, à Pau les 4 et 5 mars, à Bourges les 24 et 25 mars aussi. Des dates sont prévues jusqu'en juin et vous pouvez les retrouver sur le site du Masque. On passe maintenant à une autre vision de la jeunesse avec Willy Protagoras, enfermé dans les toilettes, pièce écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad. Le spectacle s'ouvre sur une façade d'immeuble dont les habitants apparaissent aux fenêtres. Ils s'insultent les uns les autres, mais se passionnent ensemble pour les malheurs de la famille Protagoras, un couple et leurs deux grands-enfants qui occupent le plus bel appartement du bâtiment. Les Protagoras ont accueilli une autre famille chez eux et la cohabitation est impossible ou quasi. La fille de la maison, Nelly Protagoras, décide de partir et son frère Willy, joué par Michel Lescaut, s'enferme dans les toilettes en signe de révolte pour, je cite, « faire chier le monde au figuré comme au propre ». Farce, donc outrance, cri de révolte de la jeunesse et tragédie. Willy Protagoras enfermé dans les toilettes est la première pièce que Wajdi Mouawad a écrite. Il avait alors 19 ans. Il en a aujourd'hui 57 et c'est avec cette création qu'il clôt son mandat de directeur du théâtre de la Colline. Sandrine ?
Voilà, tout est dit. Non, je dirais que trop de caca fout la merde sur scène, quoi.
D'accord. Oh, c'est facile.
Bah, c'est facile, mais c'est la réalité.
Je pense que le champ lexical du caca va être très présent dans cette discussion. Bah,
c'est difficile de faire faire autrement.
Il y a du caca partout. Dans les femmes savantes, il y en a aussi.
Oui, non, mais enfin, alors, là, il y en a sur scène.
Là, il y en a sur scène et il y a des scènes. Enfin bon, c'est très grossier, quoi. Non, mais et puis trop d'effets tue l'effet, quoi. En fait, pour moi, cette pièce, c'est un capharnaüm, c'est un capharnaüm, et on ne sait pas où poser, en fait, son...
Comme était le Liban à l'époque.
Où poser son regard. Ah. Le thème est intéressant, mais c'est noyé dans une mise en scène que moi, j'ai trouvée très bordélique et parfois vilaine à voir. Vilaine à voir. En plus, le jeu est très inégal. Enfin, moi, personnellement, il y a des comédiens ou des comédiennes dont je ne comprenais pas ce qu'ils disaient.
Parce qu'ils parlent très, très vite.
Très, très vite, ou... Enfin, voilà,
c'est
quoi.
C'est une partition musicale.
C'est une partition musicale, oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Le rôle du père irascible avec sa voix très, très grave. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il jouait faux. Donc, voilà, Willy, il est dans ses water closets, c'est précisé, où il ne rêve que de création et d'amour. Et donc, pour faire chier le monde, il les empêche de pouvoir chier dans les toilettes. Hein. On en est là.
Passionnant.
Et bon, moi, la chose qui m'a intéressée, c'est un peu la dissonance entre la jeune génération et la vieille génération. Enfin, cette confrontation entre les rêves de jeunesse et les personnes, les plus âgées qui, eux, sont dans leur territoire et ne s'occupe plus que d'un univers ultra fermé et sans intérêt. Mais moi, j'ai jamais été émue. Je veux dire, il y a quand même à un moment donné la mort d'un garçon, le suicide d'un garçon, et la mère derrière dont on a vu à quel point elle adorait son fils. Et là, mais je me dis, mais c'est fou que même ça, je ne sois pas émue par la tristesse de cette femme. Enfin, j'ai trouvé le temps long et je ne conseillerais pas cette pièce.
Anna. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi. Je suis embêtée parce que Wajdi Mouawad est vraiment une personnalité intéressante et c'est son dernier spectacle au Théâtre de la Colline en tant que directeur. Donc, je le dis pas de gaieté de cœur, mais j'ai trouvé ce spectacle impossible. Alors, qu'il ait envie de redécouvrir l'auteur qu'il était quand il avait 19 ans, pourquoi pas? Mais est-ce que vraiment c'était nécessaire de le partager avec nous? Je ne suis pas sûre. Moi, j'y ai vu comme une rétrospective qui se fait à lui-même, ou une auto-célébration.
Comme d'habitude.
Non, mais il y a c'est bien Wajdi Mouawad.
Là, je l'ai ressenti comme ça. Après, il a fait de très beaux spectacles, mais celui-là, à mon sens, pas du tout. En termes de théâtre, vraiment, je trouve que c'est assez daté. Le rapport entre les jeunes et les vieux, ça ne prend pas vraiment. Et formellement, c'est aussi assez long, assez poussif. Enfin, je suis confuse, hein, mais je n'ai pas du tout aimé.
T'es confuse, toi, Fabienne ?
Moi, j'ai trouvé que c'était un geste culotté de terminer son mandat à la colline, justement par une œuvre de jeunesse où il pousse un cri de colère contre le monde, où il se réfugie dans les toilettes pour chier, mais surtout faire chier. Et c'est évidemment une métaphore, hein, chier, non, pas chier.
Oui, on aura compris.
Fabienne, j'avais compris.
Pas sûr.
C'est dit à peu près 25 fois dans la pièce.
C'est quand même très, très présent. Hein,
cette insistance. Oui, moi, j'ai aimé cette langue. Alors, il y a des longueurs, c'est sûr. Ça dure 2h30, ça aurait duré 2 heures. C'était bien. Il y a l'entrée d'une troupe amateur. On se demande un peu pourquoi, qui vient en plus
cringe
casser
total,
le rythme du spectacle. Mais je trouve que la parole, la densité de ce langage, cruel, grossier, cru, vulgaire, c'est une vraie poésie, quoi. C'est une vraie langue. C'est une vraie langue charnelle.
Alors, j'ai vraiment
comme
beaucoup
Marina,
mal à trouver de la poésie dans ce spectacle. Excuse-moi.
Mais c'est pas parce que ça parle de caca qu'il n'y a pas de poésie.
Mais c'est pas ça, c'est pas ça.
Bétassonne.
C'est tout le reste.
Pierre.
Oui, de la pièce de jeunesse à la raclure de bidet, parfois il n'y a qu'un pas. Et là, Non mais rien c'était ne va. Formule. Alors pour que ça aille un peu mieux, il aurait peut-être fallu couper la pièce de moitié. Ça n'aurait rien enlevé à l'intrigue ni à sa petite métaphore.
Oui,
puis on aurait pu aussi enlever certains personnages. Ça aurait délivré une certaine comédienne d'avoir deux phrases à dire, c'est-à-dire je veux de la cocaïne et du sexe pendant 2h30. Non mais surtout
il
essaye de nous montrer. Il veut nous montrer qu'il sait faire de la farce, mais il n'assume même pas jusqu'au bout ça. En fait, il intellectualise sa farce. Il en fait une métaphore extrêmement poseuse et le personnage de Willy lui-même, il perd progressivement toute dérision. Il devient encore une fois un relais de moi je dis wawa, d'une espèce de figure christique, sacrificielle, bien masculine, dont on pourrait aujourd'hui tout à fait se passer, à mon sens.
Bien masculine, alors là, j'ai pas
compris. Oui, christique, sacrificielle, insupportable.
Pas du tout. Il se suicide à la fin, on peut pas dire que le Christ se suicide.
Nous n'allons pas entrer dans ces considérations. Willy Protagoras, enfermé dans les toilettes de Wajdi Mouawad, c'est au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 8 mars. On va parler maintenant de Sex, Grog et Rocking Chair, troisième seul en scène d'Alex Lutz. Sex, Grog et Rocking Chair est l'histoire, je cite, d'un homme avec un regard de biais et une vie de travers. Il s'appelait Gérard Lutz, père de l'Alex du même nom. Gérard est mort et son fils a écrit un spectacle où il raconte plusieurs générations. Celle des boomers, comme on dit, donc celles et ceux qui ont vécu le rock'n'roll et les utopies des années 60. Alex Lutz raconte aussi sa génération à lui, qui a vécu le chômage et l'arrivée du sida, et enfin la génération qui le suit. En 1h40 défile donc 70 ans d'histoire de France, mais c'est Gérard Lutz, ses dérives mentales et sa vie fragmentée qui composent l'essentiel du spectacle. L'évocation de son passé et de l'homme qu'il fut passe parfois par des imitations d'amis proches et par le décor, un fatras d'objets de toutes sortes qui ont appartenu à Gérard et qui sont rassemblés au centre de la scène. Alex Lutz pioche plusieurs des objets, il entre parfois dans le tas, ou tourne autour comme s'il faisait une danse de Sioux. Et parfois, un cheval blanc déjà présent dans le spectacle précédent fait son entrée et on dirait qu'on serait dans un rêve de gosse. Anna.
Alors, j'aime beaucoup Alex Lutz. C'est une personnalité que je trouve très originale, avec un univers vraiment qui n'appartient qu'à lui et qui est riche. Il y a chez lui de l'enfance, de la poésie, du lyrisme, un côté vintage tout en étant très dans son époque. Il est assez inclassable et d'ailleurs il le met en scène lui-même parce que le spectacle commence par, on est au cirque Bouglione et pour entrer en piste, il y a une cabine de verre et il doit donner un mot de passe pour pouvoir entrer. Et alors il essaye différents trucs, théâtre, musique, quotidien, et ça marche jamais parce qu'en effet, on peut pas le mettre dans une case. C'est un spectacle qui est ambitieux parce que, comme il le dit aussi lui-même, je vais parler de la mort de mon père et essayer d'être drôle, eh bien, il y arrive. Alors, d'être drôle, il y arrive magnifiquement, notamment, comme vous le disiez, Rebecca, quand, franchement, ces imitations, quand il y a la galerie de portraits des trois personnages, Jean-Luc, Marie-France, Isabelle.
Il y a l'employé des pompes funèbres.
Quand il imite, il est irrésistible. Chaque mimique est d'une précision, d'une justesse.
Il a fait Catherine et Liliane, hein.
Bien sûr, on lui doit Catherine et Liliane, qui étaient en effet totalement irrésistibles. Donc, il est très, très, très drôle. Et quand il parle de son père, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il parle de son père, parce que quand même, son père, il faut dire qu'il avait le syndrome de Diogène, qu'il était quand même très penché sur l'alcool, qu'il y a eu une déliquescence et une décrépitude en fin de vie quand même assez tragique. Donc, il ne fait pas du tout un portrait hagiographique de son père. C'est pas du tout mon père, ce héros. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est pas du tout misérabiliste ni victimaire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal. Il rend hommage à son père en faisant un spectacle sur lui, point. Et ça, c'est très beau et c'est très rare aujourd'hui. Donc, voilà, il y a quelques défauts, à mon sens, dans le spectacle, mais j'aime le geste et j'aime énormément l'énergie et ce que dégage cet homme.
Pierre ?
Aïe. Non, moi, j'ai eu l'impression d'être coincé dans le tunnel du type qui monte sur la table au mariage pour faire des blagues de famille. Et là, en plus, c'est un enterrement, donc c'est encore un moins drôle. Moi, je trouve que le sujet du spectacle n'est pas traité. Tu dis, Anna, que c'est un spectacle sur son père. Alors, il y a ces objets que son père a laissés qui pourraient le raconter et qui, en même temps, ne le racontent pas puisqu'il le dit que son père lui échappe. En fait, au lieu de ça, peut-être pour universaliser le propos et ne pas tomber dans le nombrilisme de l'autofiction, il nous sert une sorte de cavalcade de clichés, de soupe sociologique sur les générations. Lui-même porte une sorte de regard un peu physique sur lui-même, une forme d'autodérision. Mais c'est un portrait des différentes générations, quand même.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec une soupe sociologique.
Se travailler avec des clichés à l'appel, avec...
Non.
Et où sont les clichés ?
Il n'y a que ça dans ce spectacle.
Ah bon ?
Moi, je trouve.
Ah non.
Et moi, je trouve
il joue.
Enfin, il est extrêmement complaisant. Il est extrêmement misogyne, caricatural.
Oh, arrête. Pourquoi il est misogyne ?
C'est vrai. Isabelle, la compagne de son père, qui a des problèmes mentaux, et ça devient une ressource de comique.
Mais le père lui-même a des problèmes mentaux dont il rit. Quand même.
Bon, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même spectacle.
Sandrine.
Moi, j'ai adoré ce spectacle. Pour moi, Alex Lutz est un des meilleurs comédiens humoristes actuels parce qu'il est d'une originalité folle. Il joue divinement bien. Il arrive à mettre de la poésie, de l'émotion, un humour fou. Enfin, tout y est. Enfin, franchement, je trouve ce spectacle incontournable parce que, en plus, en parlant de son histoire, il en fait quelque chose d'universel et ça marche. C'est-à-dire que ça nous renvoie tous à nos propres relations avec nos parents. Et effectivement, son interprétation, enfin, quand il monte sur les cubes pour faire une interprétation d'un personnage, mais il est irrésistible. Il a vraiment un don de la métamorphose qui, moi, me bluffe. Donc, courez-y.
Fabienne.
Moi, j'ai été bouleversée par le spectacle. J'ai même quasiment pleuré, comme notre ami Pierre tout à l'heure au Pommera, parce que je trouve d'abord, j'ai été bluffée par cet amour fou pour ce père qui est pas quelqu'un de formidable, qui est quelqu'un de banal, d'ordinaire, comme on l'est tous. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout trouvé, comme tu le disais, que c'était une soupe sociologique remplie de clichés. C'est le travail sur l'histoire de France qui fait. En admettant que son père allait voir son grand-père, dont les copains étaient des gueules cassées de la guerre de 14-18 et s'amusaient à lui faire peur en enlevant leur masque et à le terroriser. Donc ça nous met sur 100 ans d'histoire de France. Et il brasse ça avec, pour chaque génération, un travail sur la langue de cette génération, sur les objets de cette génération.
Et sur la musique.
Et sur la musique. Donc moi j'ai trouvé qu'au contraire, il avait vraiment bossé, en plus de cette tendresse forcenée et de ce contre-coup qu'il nous donne tout le temps avec la présence de cheval qui impose un autre tempo, une autre lumière, qui impose de la poésie et du silence dans ce monde de paroles et de d'objets et de trucs. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel.
Et il faut dire que le lieu où il le joue à Paris, le Cirque d'hiver, enfin, c'est un lieu
magique.
Magique. Donc là, en plus, avec cette installation qu'il a centrale, ça fonctionne.
Et la manière qu'il a de se moquer de lui, contrairement à ce que tu dis, de son physique, de ses fesses qui sont molles,
mais
ou je ne sais
que
quoi.
Son physique.
Et des injonctions, justement, à ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui.
Exactement.
Je précise qu'Alex Lutz sera à nouveau au Cirque d'hiver à Paris entre le 15 et le 26 avril. Et ce spectacle, Sex, Grog et Rocking Chair, est en tournée jusqu'en juin à Cholet le 12 février, d'Yvonne Les Bains, 8 mars, Thionville le 15, le tout est mis en scène par Tom Dingler. On enchaîne avec la troupe de la Comédie Française dans un classique, Les Femmes Savantes de Molière, sous le regard de la metteuse en scène sicilienne Emma Dante. Pour rappel, Philaminte, sa fille Armande et sa belle-sœur Bélise ne croient qu'en la science et en la culture émancipatrice. Enfin, Bélise ne boude pas totalement les plaisirs de la chair, puisqu'elle apparaît ici en collant léopard, clope au bec et canette de bière pas loin. C'est Emmeline Alix qui l'interprète. Toutes donc se pâment devant le pédant Trissotin. Toutes, non. Henriette, l'autre fille de la famille, aime Clitandre. Chrysale, le père d'Henriette, approuve son choix en faisant semblant d'affirmer une autorité masculine en déroute. Dans des décors et des costumes très colorés, on passe d'un acte à l'autre au son d'une chanson pop, de Billie Eilish ou de The Clash, par exemple. Les hommes font leur entrée sur scène en sortant d'une malle, comme d'une boîte à musique. Laurence Stocker joue Chrysale, Elsa le Poivre, Philaminte, Stéphane Varupen et Trissotin. C'est la première fois qu'Emma Dante monte en Molière et la première fois aussi qu'elle propose sa vision décapante à la troupe du Français. Sandrine ?
Ah ben, je ne suis pas prêt d'oublier cette version des Femmes Savantes. J'ai trouvé ça assez incroyable. Alors, je mets de côté, disons-le tout de suite, les 5 ou 10 premières minutes très contemporaines qui, moi, m'ont dérangée. Mais à partir du moment où on rentre dans l'histoire des Femmes Savantes, je veux dire, c'est une succession d'idées, de surprises, tout est formidable. Enfin, déjà, rien que l'idée de faire sortir les hommes de ces malles et de les dépoussiérer avec un aspirateur portable, effectivement, ce canapé à trappe, c'est dément. Et puis, il faut vraiment dire un énorme bravo à Vanessa Sinano, qui signe les costumes, qui sont jusque déments, enfin, et les coiffes également, qui sont...
Et la scénographie aussi.
Extraordinaire, la scénographie. Ces tas de livres où, qui se transforment en fleurs, avec les fleurs aussi qui sortent du décor à l'arrière, c'est extraordinaire. La troupe est au diapason. Enfin, moi, j'ai trouvé Laurence Stocker juste époustouflant. Mais vraiment, quand il est là, on ne voit que lui, quoi. Il y a une chose que j'aime, c'est qu'elle ne prend pas parti, elle laisse le spectateur se faire son jugement sur est-ce que Molière est misogyne ou est-ce qu'il est féministe. Elle laisse ouvert ça et
oui,
c'est
mais
vraiment.
C'est même pas le propos
Fabienne,
que
Fabienne,
Molière
c'est pas
soit misogyne et féministe.
Mais ce que j'aime bien, c'est que tout reste ouvert et vraiment, c'est un enchantement.
Faut pas oublier que c'était Armande Béjart qui a longtemps dirigé la troupe de Molière, qu'elle est morte richissime et que dans la troupe de Molière, les femmes avaient un statut totalement égal aux hommes et qu'elles étaient. Il n'y avait pas de problème de misogynie qui se posait.
Oui,
hein.
Et comme la question plutôt une histoire. Se pose sur
oui,
cette pièce.
Mais parlons de la mise en scène d'Emma Dante.
Alors Fabienne. Moi, la mise en scène d'Emma Dante, j'ai été le premier soir et j'ai trouvé que c'était plutôt une mise en transe qu'une mise en scène. C'est-à-dire les personnages deviennent hystériques, ils gueulent tout le temps. Et c'est un bordel volcanique sicilien sur scène. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des idées. Par exemple, tu parlais de Stocker. Stocker, elle le montre tentée par l'homosexualité à un moment. J'avais jamais vu ça. Je trouve ça extraordinaire. Stocker est extraordinaire. Varupen,
qui joue Trissotin,
ouais. Qui est une sorte de Tartuffe. Il y a presque un moment où on le voit violer Henriette. Harceler, ça va faire plaisir à Pierre. Et notre gardien des femmes. Et donc, tout ça, elle arrive, avec le 17e, à parler de l'actualité d'aujourd'hui. Et ça, c'est
plusieurs
ça, c'est bien.
Même.
Mais bon sang, c'est la plus belle pièce de Molière. C'est l'avant-dernière.
Je sais
elle
pas
est versifiée
si
de manière magnifique. Il a travaillé 4 ans dessus. Et les vers, il n'en reste rien. Ah. Ils gueulent, ils parlent vite.
Ah non, mais ils gueulent pas
on
tout
les comprend
le temps.
C'est vrai que chez Wawad, ils gueulent pas.
Pierre, je ne comprenais même pas.
La parole est à Pierre.
Comme Sandrine, j'ai eu un tout petit peu peur au début d'avoir une espèce de cartoon de haute couture avec plein de gadgets, plein d'idées pour donner de l'air frais à Molière de manière un peu artificielle. Et puis, quand ces fleurs poussent dans le décor, bah, c'est un peu littéral ce que je vais dire, mais le spectacle est clos. C'est-à-dire que là, on voit un beau spectacle avec une vraie lecture de la pièce, une lecture qui est complexe. Je rejoins beaucoup Sandrine parce qu'elle renvoie un peu dos à dos les idéaux des personnages. On entend le discours possiblement féministe de Molière sur ce patriarcat, c'est des
bouillon,
petits hommes de cour. Mais on entend aussi le paternalisme de certaines femmes savantes par rapport à Henriette, et je trouve qu'à la fin, cette espèce de scénographie qui se rétrécit pour former une sorte de tableau de famille à la fois très beau et encrouté, comme si on avait un petit monde du passé devant nous. C'est... Moi, ça m'a beaucoup ému aussi, cette fin.
Anna ?
Alors, moi, j'entends ce que dit Fabienne sur le texte, mais je pense que ce qui intéresse Emma Dante, c'est vraiment l'atmosphère générale. Et ça, elle le fait extrêmement bien. Elle arrive à créer une ambiance entre la Commedia dell'arte, la comédie italienne des années 50, à la Eduardo De Filippo, quelque chose de beaucoup plus pop aujourd'hui avec toute cette bande-son. Il faut citer la chanson de Giulia May, Bandiera, oui, qui est géniale, qui revient tout en filigrane pendant le spectacle. Moi, je l'écoute en boucle depuis. Bon, bref, ça, c'est un détail, mais elle a réussi à faire ça. En effet, elle évite l'écueil féministe un peu lourdingue, tout en révélant extrêmement bien la modernité des personnages féminins. Et c'est un spectacle qui a énormément de charme. Je dois aussi revenir sur Stoker, c'est un génie, parce qu'il va tellement loin dans la comédie sans jamais cabotiner. C'est ce qui est très rare. Donc c'est un spectacle qui se voit avec beaucoup de plaisir.
Les autres ne sont pas tous formidables, hein. Ah Elsa bon, Le Poivre, elle savait pas très bien son texte, moi, le soir où j'y étais.
Malheureusement, en raison des travaux à la Comédie Française, la troupe est délocalisée dans plusieurs théâtres parisiens. Les Femmes Savantes se jouent donc au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 1er mars. Et ce jour-là, dimanche 1er mars, la pièce mise en scène par Emma Dante sera filmée et retransmise en direct dans les cinémas Pathé, soit dans plus de 200 salles en France. On termine avec une pirate de l'air. Elle s'appelait Danielle Craven. Elle était l'épouse de Georges Craven, connue pour avoir créé les Césars et les Molières. Le 18 octobre 1973, Danielle Craven, 35 ans, détourne le vol Paris-Nice pour exiger la mise sous scellé des bobines du film « Les aventures de Rabbi Jacob » qui doit sortir sur les écrans le même jour. En pleine guerre du Kippour, Danielle estime que ce film de Gérard Houry peut nuire à la réconciliation entre juifs et arabes. À partir de ces faits réels, Jean-Philippe Daguerre a écrit et mis en scène la pièce « La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob », c'est donc le titre, en même temps qu'il publie son premier roman sous le même titre et inspiré de la même histoire. La pièce rend compte d'une époque, de la vie d'une femme, d'un couple célèbre et de l'histoire d'un des films les plus populaires du cinéma français. Des projections vidéo nous font passer du Fouquet's à la cabine de l'avion détourné en passant par la loge de Louis de Funès. C'est Julien Cigana qui joue Louis de Funès, Charlotte Matzneff et Danielle Craven et Bernard Malacca interprète son mari. Cette création de Jean-Philippe Daguerre suit le triomphe de sa pièce précédente, Du charbon dans les veines, qui avait remporté 5 Molières l'année dernière. Fabienne.
Alors moi j'ai beaucoup d'indulgence pour ce spectacle parce que je dois dire que j'ai passé un très bon moment en découvrant cette histoire que j'ignorais totalement, qui est folle,
incroyable.
Cette pirate de l'air, cette femme, Danielle Craven, qui tout à coup décide, qui détourne un avion pour qu'on ne sorte pas le film dont son mari est l'attaché de presse, quel courage, quelle force,
qui veut qu'elle a refusé de visionner, hein.
Exactement, qui veut réconcilier les Arabes et les Juifs. Donc, elle est formidable. Je trouve que le dispositif scénique, cette histoire d'écran imaginée par Narcisse, est tout à fait plaisante, que les acteurs sont bien. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment. C'est pas un spectacle qui va faire avancer l'histoire du théâtre, ni une prise de risque dans la mise en scène, mais c'est pur plaisir, connaissance d'un fait qui n'existe pas, et encore une fois...
Connaissance d'un fait qui a existé.
Exactement, et qui a été jusqu'au crime d'État, puisque Craven a attaqué et que ses avocats, c'était Badinter et Kiechmann.
Anna.
Alors moi, c'est un spectacle qui m'a posé vraiment problème, en fait, parce que, à la fois dans la forme et dans le fond, le sujet, en effet, il est dément, et j'ignorais aussi totalement, donc je sais gré à Jean-Philippe Daguerre de l'avoir porté à la scène, mais j'ai été extrêmement déçue et je dirais même gênée parce que j'ai eu le sentiment d'une vulgarisation en fait totale et à gros traits de cette histoire. J'étais mal pendant le spectacle. Ce personnage,
du moment qu'on la connaît.
Ah non.
Non mais justement, il essaye d'en faire le profil psychologique de cette femme.
Ouais, enfin, il essaye. Je suis désolée. Donc
pas lourdement.
Non mais moi, en sortant du spectacle, j'étais troublée. Donc j'ai voulu mener l'enquête. Donc j'ai cherché, j'ai vu d'où venait l'idée du spectacle, une émission de radio, c'était sur Europe, avec Frédéric Taddeï, qui venait d'une tribune, en fait, de l'Obs, écrite par une amie de Danielle Craven, Sylvie Maton. Voilà. Ben, je l'ai appelée, et j'ai essayé de comprendre, et en effet, elle m'a décrit un personnage, quand même, qui est autrement plus complexe et plus riche que ce qui est donné à voir là. Et oui, le sujet, très bien, mais ça suffit pas, un sujet, c'est la façon dont on le traite. Et là,
au moins, ça nous fait connaître cette aventure exceptionnelle, Anna. Sinon, on la connaîtrait pas.
Sylvie Maton prépare un livre, et je suis très curieuse de lire ce livre.
Sandrine.
Alors, je trouve que la scénographie, c'est une des meilleures idées de cette pièce. Et là, pour le coup, Jean-Philippe Daguerre fait quelque chose de radicalement différent de ce qu'il peut faire jusqu'à présent avec des décors très traditionnels. Je trouve que l'illusion est parfaite, effectivement, et ça nous permet de passer d'un lieu à un autre de manière assez incroyable.
Avec des projections vidéo,
après,
donc.
Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un énorme le problème de cette pièce, c'est un problème de narration. Et en fait, je pense qu'il aurait dû inverser. Je pense qu'il aurait dû commencer par ce geste fou de cette femme, qui est de détourner un avion, d'acheter une carabine et de détourner un avion.
Mais il
et
le après... montre en vidéo, ça, quand même, tout au long du spectacle.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a un petit fil rouge, qui est un petit film graphique, où effectivement, on voit une femme qui va dans une armurerie, qui après cache sa carabine dans le sac de son petit chien, puis qui après prend l'avion. Mais sauf que si tu connais pas l'histoire au départ, d'abord, cette femme, on la reconnaît pas sur le petit film, et on fait pas forcément
ça. Ça fait partie du
suspense. Moi, je trouve que ça, c'est pas très, très, très bien fait. Et puis, après, Bernard Malacca, je le trouve excellent.
Qui joue Georges Cravel.
Voilà. Cet homme très sûr de lui, et puis qui va quand même inventer les relations publiques du cinéma. Enfin, après, l'exercice difficile qu'on a donné à... Comment s'appelle-t-il ?
Julien Cigana.
À Julien Cigana.
De et on en terminera avec
la
lui.
La pote de Funès. Je trouve que l'exercice est difficile, il s'en sort bien. Mais moi, je me demande si j'aurais pas préféré qu'on me raconte de Funès, mais dans la vraie vie, entre guillemets. C'est-à-dire pas de Funès, il se résume pas à ce qu'il fait dans les films. Et bah là, on ne montre que ça.
C'est justement le contraire. Pierre, là. C'est l'intimité de Louis de Funès.
Ah bah non, non, bah non,
si.
Il ne fait
on
que...
voit ses doutes à jouer ce film. Alors, je suis désolée, c'est tout le contraire. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle à la fois pantouflard et piquant, ce qui est assez rare. Pantouflard parce que, bah oui, théâtralement, c'est plat, aussi plat que les écrans qui composent le décor, les dialogues sont un peu démonstratifs, etc., etc. Mais sur le fond politique, moi, j'ai été assez agréablement surpris. Je trouve que ce vieux monde franchouillard, un peu raciste, un peu misogyne, ordinaire, est quand même assez bien mordu par moments. Et puis, moi, je trouve que le personnage féminin est assez bien écrit, par exemple, dans sa tirade où elle renvoie aux autres la folie qu'on lui prête. Alors, tout cela pourrait aller un peu plus loin, bien sûr, tout ça est un peu sentimentalisé à la fin avec l'histoire des enfants, mais je trouve que c'est un spectacle qui est de bonne aloi. Voilà.
Ah, ben on est d'accord.
Pour une fois. La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob de Jean-Philippe Daguerre, c'est au théâtre Montparnasse. Avant la fin de l'heure, il y a toujours vos coups de cœur et on commence avec toi, Fabienne.
Alors moi, c'est une jeune metteuse en scène qui s'appelle Lucille Lacaze. Et là, elle fait au TNP de Villeurbanne jusqu'au 6 février un magnifique Mesure pour mesure de Shakespeare, qui est une pièce mal aimée de Shakespeare qu'on monte peu. Une pièce un peu feuilletonesque, folle, avec des personnages d'une perversité terrifiante. Et elle la joue, les 20 personnages sont réduits à 4 acteurs qui ont un rapport très ludique avec le public. La scène est un gymnase marqué au sol. Elle sait donner du sens, de l'alacrité, de la vivacité et surtout du plaisir à ce Mesure pour mesure, c'est formidable.
Juste au TNP de Villeurbanne jusqu'au 6 février.
6 février et ça part en tournée après.
Sandrine.
Alors, moi, je vais vous parler de Haroun dans Bonjour quand même, qui est au théâtre le 13e mars à Paris jusqu'à fin janvier et après qui fait une grande tournée et qui va forcément revenir à Paris. Pour moi, c'est un des meilleurs stand-up du moment. Alors, Haroun, il ne parle pas de lui, il ne parle pas de sa vie de famille, ni de ses origines. Il gamberge avec humour, avec nuance et avec philosophie sur notre époque, ses travers, notre difficulté à se comprendre, d'avoir le courage de nos opinions. C'est réfléchi, c'est très bien écrit, c'est malin. Pour ceux qui n'ont jamais vu de stand-up, s'il y en a un à voir, c'est celui-là. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir du stand-up, allez voir celui-là parce qu'il est vraiment différent des autres.
Bonjour quand même, Haroun, qui est à Paris et en tournée ensuite. Pierre.
Oui, deux petites formes mises en scène par une artiste qui me passionne, qui est Marie-Josée Malis au théâtre de l'Odéon, dans un cycle qui s'appelle Palakch Palakch. Elle propose encore jusqu'au 14 février une pantomime d'après qui s'appelle Le voile de Pirède, d'après Schnitzler, et un autre spectacle qui s'appelle Lettre du voyageur à son retour. D'après Hofmannsthal. Et c'est une artiste qui travaille à rebours de tout ce qu'on peut voir souvent dans le théâtre, c'est-à-dire à rebours du réalisme, dans une recherche très étrange, et avec ses œuvres méconnues qui évoquent la crise de la modernité, je trouve qu'elle accomplit peut-être ses plus beaux spectacles.
Palakch Palakch, pièce élémentaire de Marie-Josée Malis, c'est à l'Odéon jusqu'au 14 février. Anna.
Alors moi, j'aimerais vous parler de Pétrole, d'après Pasolini, adapté et mis en scène par Sylvain Creusevaux. Ça s'est joué au théâtre de l'Odéon aussi, mais là, c'est donc en tournée à Grenoble. Ça va revenir à Paris la saison prochaine. Pétrole, c'est le dernier chantier de Pasolini. Hein. C'est un roman, plutôt un projet romanesque immense, inachevé, qui a été publié 17 ans après son assassinat en 1975. Alors quand on le découvre, vraiment, il apparaît très clairement comme une évidence que son assassinat est politique, tant ce qu'il contient est brûlant et explosif. Et Sylvain Creusevaux nous plonge donc dans l'Italie des années de plomb où les tensions, les luttes entre les partis politiques se transforment vraiment en violence, en lutte armée, en actes terroristes. On est complètement dans l'époque, c'est vraiment une gageure de réussir à porter ça à la scène, et il le fait magnifiquement parce que c'est extraordinaire comme il arrive à retranscrire cette atmosphère de ces années. Il y a une vitalité en scène, un humour et une virulence extraordinaire, c'est à la fois radical et très généreux, avec une bande d'acteurs qui sont extraordinaires. Donc c'est du très très beau théâtre.
Ce sera d'ailleurs en avril à Rochefort, en octobre à Châtellerault ou encore en novembre à la Comédie de Saint-Étienne. Anna Sigalevitch, Fabienne Pascaud, Sandrine Blanchard, Pierre Lesquelaine, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu le jeudi 5 février entre 19 et 21h au Théâtre de l'Alliance Française, et nous débattrons de l'actualité littéraire et du cinéma. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque, et c'était avec Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf et Luna Bricotto aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation d'émissions, avec l'aide de Zora Desgouttes, à qui je souhaite une bonne route pour la suite de ses aventures. Ma bande et moi vous retrouvons la semaine prochaine avec des enthousiasmes ou des désaccords, une liberté critique dans tous les cas, et sur France Inter, évidemment.